Chapitre 13, dans lequel le roi Loc se déclare. Les nains célébrèrent par des fêtes joyeuses le couronnement de leur première princesse. Des jeux pleins d'innocence se succédèrent sans ordre dans l'immense amphithéâtre, et les petits hommes, ayant un bras de fougère ou deux feuilles de chêne coquettement attachées à leur capuchon, faisaient des bonds joyeux à travers les rues souterraines. Les réjouissances durèrent 30 jours. Pic gardait dans l'ivresse l'apparence d'un mortel inspiré. Le vertueux Tan s'enivrait du bonheur public. Le tendre Dig se donnait le plaisir de répandre des larmes. Rug, dans sa joie, demandait de nouveau qu'Abeille fût mise en cage, afin que les nains n'eussent point à craindre de perdre une princesse si charmante. Bob montait sur son corbeau, emplissait l'air de cris si joyeux que l'oiseau noir, pris lui-même de gaieté, faisait entendre de petits croissements folâtres. Seul le roi Loc était triste. Or, le 30e jour, ayant offert à la princesse et à tout le peuple des nains un festin magnifique, il monta tout debout sur son fauteuil, et sa bonne figure étant ainsi haussée jusqu'à l'oreille d'Abeille. « Ma princesse Abeille, lui dit-il, je vais vous faire une demande que vous pourrez accueillir ou repousser en toute liberté. Abeille des Clarides, princesse des nains, voulez-vous être ma femme ?» Et ce disant, le roi Loc, grave et tendre, avait la beauté pleine de douceur d'un caniche auguste. Abeille lui répondit en lui tirant la barbe. « Petit roi Loc, je veux bien être ta femme pour rire, mais je ne serai jamais ta femme pour de bon. Au moment où tu me demandes en mariage, tu me rappelles Francoeur qui, sur la terre, me comptait pour s'abuser les choses les plus extravagantes. » À ces mots, le roi Loc tourna la tête, mais non pas assez vite, pour qu'Abeille ne vit pas une larme arrêtée dans les cils du nain. Alors Abeille eut regret de lui avoir fait de la peine. « Petit roi Loc, lui dit-elle, je t'aime comme un petit roi Loc que tu es. Si tu me fais rire comme faisait Francoeur, il n'y a rien là pour te déplaire, car Francoeur chantait bien, et il aurait été beau sans ses cheveux gris et son nez rouge. » Le roi Loc lui répondit « Abeille des Clarides, princesse des nains, je vous aime dans l'espoir que vous m'aimerez un jour, mais je n'aurai pas cet espoir que je vous aimerai tout autant. Je ne vous demande en retour de mon amitié que d'être toujours sincère avec moi. Petit roi Loc, je te le promets. Eh bien, Abeille, dites-moi, si vous aimez quelqu'un jusqu'à l'épouser ?» « Mon petit roi Loc, je n'aime personne jusque-là. » Alors le roi Loc sourit, et saisissant sa coupe d'or, il porta d'une voix retentissante la santé de la princesse des nains. Et une rumeur immense s'éleva de toutes les profondeurs de la terre, car la table du festin allait d'un bout à l'autre de l'empire des nains. Chapitre 14. Abeille, le front ceint d'une couronne, était plus songeuse encore et plus triste que quand ses cheveux coulaient en liberté sur ses épaules et qu'au jour où elle allait en riant dans la forge des nains tirer la barbe à ses bons amis Pic, Tad et Tig, dont la face colorée du reflet des flammes prenait à sa bienvenue un air de gaieté. Les bons nains, qui naguère la faisaient danser sur leurs genoux en la nommant leur abeille, s'inclinait maintenant sur son passage et gardait un silence respectueux. Elle regrettait de n'être plus une enfant et elle souffrait d'être la princesse des nains. Elle n'avait plus de plaisir à voir le roi Loc depuis qu'elle l'avait vu pleurer à cause d'elle. Mais elle l'aimait parce qu'il était bon et qu'il était malheureux. Un jour, ou si l'on peut dire qu'il y a des jours dans l'empire des nains, elle prit le roi Loc par la main et l'attira sous cette fissure du roc qui laissait passer un rayon de soleil dans lequel dansait une poussière dorée. « Petit roi Loc, lui dit-elle, je souffre. Vous êtes roi, vous m'aimez, et je souffre. » En entendant ces paroles de la jolie demoiselle, le roi Loc répondit « Je vous aime, abeille des clarides, princesse des nains, et c'est pourquoi je vous ai gardé dans ce monde, afin de vous enseigner nos secrets, qui sont plus grands et plus curieux que tout ce que vous pourriez apprendre sur la terre parmi les hommes, car les hommes sont moins habiles et moins savants que les nains. » « Oui, dit Abeille, mais ils sont plus semblables à moi que les nains, c'est pourquoi je les aime mieux. Petit roi Loc, laissez-moi revoir ma mère si vous ne voulez pas que je meure. » Le roi Loc s'éloigna sans répondre. Abeille, seule et désolée, contemplait le rayon de cette lumière dont la face de la terre est toute baignée et qui revêt de ses ondes resplendissantes tous les hommes vivants et jusqu'aux mendiants qui vont par les routes. Lentement, ce rayon pâlit et changea sa clarté dorée en une lueur d'un bleu pâle. La nuit était revenue sur la terre. Une étoile, à travers la fissure du rocher, scintilla. Alors, quelqu'un lui toucha doucement l'épaule, et elle vit le roi Loc enveloppé d'un manteau noir. Il avait à son bras un autre manteau dont il couvrit la jeune fille. « Venez, lui dit-il. » Et il la conduisit hors du souterrain. Quand elle revit les arbres agités par le vent, les nuages qui passaient sur la lune et toute la grande nuit fraîche et bleue, quand elle sentit l'odeur des herbes, quand l'air qu'elle avait respiré dans son enfance lui rentra à flot dans la poitrine, elle poussa un grand soupir et crut mourir de joie. Le roi Loc l'avait prise dans ses bras. Tout petit qu'il était, il la portait aussi facilement qu'une plume, et ils glissaient tous deux sur le sol, comme l'ombre de deux oiseaux.
Chapitre 14. Où il est dit comment Abeille revit sa mère et ne put l'embrasser. Abeille, le front ceint d'une couronne, était plus songeuse encore et plus triste que quand ses cheveux coulaient en liberté sur ses épaules et qu'au jour où elle allait en riant dans la forge des nains tirer la barbe à ses bons amis Piquetad et Digue, dont la face colorée du reflet des flammes prenait à sa bienvenue un air de gaieté. Les bons nains qui, naguère, la faisaient danser sur leurs genoux en la nommant leur abeille, s'inclinaient maintenant sur son passage et gardaient un silence respectueux. Elle regrettait de n'être plus une enfant, et elle souffrait d'être la princesse des nains. Elle n'avait plus de plaisir à voir le roi Loc depuis qu'elle l'avait vu pleurer à cause d'elle. Mais elle l'aimait parce qu'il était bon et qu'il était malheureux. Un jour, ou si l'on peut dire qu'il y a des jours dans l'empire des nains, elle prit le roi Loc par la main et l'attira sous cette fissure du roc qui laissait passer un rayon du soleil dans lequel dansait une poussière dorée. « Petit roi Loc, lui dit-elle, je souffre. Vous êtes roi, vous m'aimez et je souffre. » En entendant ces paroles de la jolie demoiselle, le roi Loc répondit « Je vous aime, abeille des clarides, princesse des nains, et c'est pourquoi je vous ai gardé dans ce monde, afin de vous enseigner nos secrets, qui sont plus grands et plus curieux que tout ce que vous pouviez apprendre sur la terre parmi les hommes, car les hommes sont moins habiles et moins savants que les nains. » « Oui, dit Abeille, mais ils sont plus semblables à moi que les nains, c'est pourquoi je les aime mieux. « Petit roi Loc, laissez-moi revoir ma mère si vous ne voulez pas que je meure. » Le roi Loc s'éloigna sans répondre. Abeille, seule et désolée, contemplait le rayon de cette lumière dont la face de la terre est toute baignée et qui revêt de ses ondes resplendissantes tous les hommes vivants et jusqu'aux mendiants qui vont par les routes. Lentement, ce rayon pâlit et changea sa clarté dorée en une lueur d'un bleu pâle. La nuit était venue sur la terre. Une étoile, à travers la fissure du rocher, scintilla. Alors, quelqu'un lui toucha doucement l'épaule, et elle vit le roi Locke enveloppé d'un manteau noir. Il avait à son bras un autre manteau dont il couvrit la jeune fille. « Venez, lui dit-il. » Et il la conduisit hors du souterrain. Quand elle revit les arbres agités par le vent, les nuages qui passaient sur la lune et toute la grande nuit fraîche et bleue, quand elle sentit l'odeur des herbes, quand l'air qu'elle avait respiré dans son enfance lui rentra à flot dans la poitrine, elle poussa un grand soupir et crut mourir de joie. Le roi Locke l'avait prise dans ses bras, tout petit qu'il était, il la portait aussi facilement qu'une plume, et ils glissaient tous deux sur le sol comme l'ombre de deux oiseaux. « Abeille, vous allez revoir votre mère, mais écoutez-moi. Toutes les nuits, vous le savez, j'envoie votre image à votre mère. Toutes les nuits, elle voit votre cher fantôme, elle lui sourit, elle lui parle, elle l'embrasse. Je vous montrerai cette nuit à elle, vous-même, au lieu de votre simulacre. Vous la verrez, mais ne la touchez pas, ne lui parlez pas. Car alors le charme serait rompu et elle ne reverrait plus jamais ni vous ni votre image, qu'elle ne distingue pas de vous-même. Je serai donc prudente, hélas, petit roi Locke. Ah, le voilà, le voilà !» En effet, le donjon des Clarides s'élevait tout noir sur le mont Abeille. Il eut à peine le temps d'envoyer un baiser aux vieilles pierres bien-aimées, et déjà elle voyait fuir à son côté les remparts fleuris de giroflées de la ville des Clarides. Déjà, elle montait par une rampe d'or où des vers luisants brillaient dans l'herbe jusqu'à la poterne, que le roi ouvrit aisément, car les nains, dompteurs des métaux, ne sont point arrêtés par les serrures, les cadenas, les verrous, les chaînes, ni les grilles. Elle monta l'escalier tournant qui menait à la chambre de sa mère, et elle s'arrêta pour contenir à deux mains son cœur qui battait. La porte s'ouvrit doucement, et à la lueur d'une veilleuse suspendue au plafond de la chambre, Abeille vit, dans le silence religieux qui régnait, sa mère amaigrie et pâlie, ayant aux tempes des cheveux gris, mais plus belle ainsi pour sa fille qu'au jour passé des magnifiques parures et des hardis chevauchés. Comme alors cette mère voyait sa fille en rêve, elle ouvrit les bras pour l'embrasser. Et l'enfant, riant et sanglotant, voulut se jeter dans ses bras ouverts, mais le roi Locke l'arracha à cet embrassement et l'emporta comme une paille par les campagnes bleues dans le royaume des nains. Chapitre 15, dans lequel on verra la grande peine qu'eut le roi Locke. Abeille, assise sur les degrés de granit du palais souterrain, regardait encore le ciel bleu à travers la fissure du rocher. Là, des sureaux tournaient vers la lumière leurs ombelles blanches. Abeille se mit à pleurer. Le roi Locke lui prit la main et lui dit « Abeille, pourquoi pleurez-vous et que désirez-vous ?» Et comme elle était triste depuis plusieurs jours, les nains, assis à ses pieds, lui jouaient des airs naïfs sur la flûte, le flageolet, le rebec et les timbales. D'autres nains faisaient pour lui plaire des culbutes telles qu'ils piquaient l'un après l'autre dans l'herbe la pointe de leur capuchon ornée d'une cocarde de feuillage, et rien n'était plaisant à voir comme les jeux de ces petits hommes à barbe d'ermite. Le vertueux Tad, le sensible Dig, qu'il aimait depuis le jour où il l'avait vu endormi au bord du lac, et Pique, le vieux poète, la prenait doucement par le bras et la suppliait de leur confier le secret de son chagrin. Pau, dont l'esprit était simple mais juste, lui présentait des raisins dans une corbeille. et tous, l'attirant par le bord de sa jupe, répétaient avec le roi Loc: « Abeille, princesse des nains, pourquoi pleurez-vous ?» L'abeille répondit: « Petit roi Loc, et vous tous, petits hommes, mon chagrin augmente votre amitié parce que vous êtes bons. Vous pleurez quand je pleure. Sachez que je pleure en songeant à Georges de Blanchelande, qui doit être aujourd'hui un brave chevalier, et que je ne reverrai pas. Je l'aime, je voudrais être sa femme. » Le roi Loc retira sa main de la main qu'il pressait et lui dit: « Abeille, pourquoi m'avez-vous trompé en me disant à la table du festin que vous n'aviez d'amour pour personne ?» L'abeille répondit: « Petit roi Loc, je ne t'ai pas trompé à la table du festin. Je ne désirais pas alors épouser Georges de Blanchelande, et c'est aujourd'hui mon envie la plus chère qu'il me demande en mariage. Mais il ne me demandera pas, puisque je ne sais où il est, et qu'il ne sait où me trouver. Alors c'est pourquoi je pleure. » À ces mots, les musiciens s'arrêtèrent de jouer de leurs instruments. Les sauteurs interrompirent leurs sauts et restèrent immobiles, sur la tête ou sur le derrière. Tas des digues répandirent des pleurs silencieux sur la manche d'abeille. Le simple pôle laissa tomber la corbeille avec les grappes de raisin, et tous les petits hommes poussèrent des gémissements affreux. Mais le roi des nains, plus désolé que tous, sous sa couronne aux fleurons étincelants, s'éloigna sans rien dire en laissant traîner derrière lui son manteau comme un torrent de pourpre. Chapitre 16, où l'on rapporte les paroles du savant Nur qui causèrent une joie extraordinaire au petit roi Loc. Le roi Loc n'avait pas laissé voir sa faiblesse à la jeune fille, mais quand il fut seul, il s'assit à terre et, se tenant les pieds dans les mains, il s'abandonna à sa douleur. Il était jaloux et se disait: « Elle aime, et ce n'est pas moi qu'elle aime. Pourtant, je suis roi, et je suis plein de science. J'ai des trésors, je sais des secrets merveilleux. Je suis meilleur que tous les autres nains qui valent mieux que les hommes. Elle ne m'aime pas. Et elle aime un jeune homme qui n'a point la science des nains, et qui n'en a peut-être aucune. Certes, elle n'estime point le mérite et n'est guère sensée. Je devrais rire de son peu de jugement, mais je l'aime, et je n'ai de goût à rien au monde parce qu'elle ne m'aime pas. » Et pendant le long jour, le roi Loc erra seul dans les gorges les plus sauvages de la montagne, houlant dans son esprit des pensées tristes et parfois mauvaises. Il songeait à réduire par la captivité et la faim Abeille à devenir sa femme. Mais chassant cette idée, presque aussitôt après l'avoir formée, il se proposait d'aller trouver la jeune fille et de se jeter à ses pieds. Il ne s'arrêtait pas non plus à cette résolution, il ne savait que faire. C'est qu'en effet, il ne dépendait pas de lui qu'Abeille vint à l'aimer. Sa colère se tournait tout d'un coup contre Georges de Blanchelande. Il souhaitait que ce jeune homme fût emporté bien loin par quelque enchanteur, ou du moins, s'il devait jamais connaître l'amour d'Abeille, qu'il le méprisât. Et le roi songeait: « Sans être vieux, j'ai vécu déjà trop longtemps pour n'avoir pas quelquefois souffert. Mais mes souffrances, si profondes qu'elles fussent, était moins âpre que celle que j'éprouve aujourd'hui. La tendresse ou la pitié qui les causait y mêlait quelque chose de leur céleste douceur. Au contraire, je sens qu'à cette heure, mon chagrin, la noirceur et l'âcreté d'un mauvais désir. Mon âme est aride et mes yeux nagent dans leurs pleurs comme dans un acide qui les brûle. » Ainsi songeait le roi Loc. Et craignant que la jalousie le rendît injuste et méchant, Il évitait de rencontrer la jeune fille de peur de lui tenir, sans le vouloir, le langage d'un homme faible ou violent. Un jour, qu'il était plus tourmenté qu'à l'ordinaire par la pensée qu'Abeille aimait Georges, il prit la résolution de consulter Nur, qui était le plus savant des nains et habitait au fond d'un puits creusé dans les entrailles de la terre. Ce puits avait l'avantage d'une température égale et douce. Il n'était point obscur, car deux petits astres, un soleil pâle et une lune rouge, en éclairaient alternativement toutes les parties. Le roi Log descendit dans ce puits et trouva Nur dans son laboratoire. Nur avait le visage d'un bon petit vieux bonhomme et il portait un brin de serpolet sur son capuchon. Malgré sa science, il partageait l'innocence et la candeur de sa race. « Nur, lui dit le roi en l'embrassant, je viens te consulter parce que tu sais beaucoup de choses. » Le roi Loc, répondit Nur, je pourrais savoir beaucoup de choses et n'être qu'un imbécile, mais je connais le moyen d'apprendre quelques-unes des innombrables choses que j'ignore, et c'est pourquoi je suis justement renommé comme un savant. Eh bien, reprit le roi Loc, sais-tu où est présentement un jeune garçon nommé Georges de Blanchelande? Je ne le sais point, et je n'ai jamais la curiosité de l'apprendre, répondit Nur. Sachant combien les hommes sont ignorants, sots et méchants, je me soucie peu de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils font. À cela près que pour donner du prix à la vie de cette race orgueilleuse et misérable, les hommes ont le courage, les femmes la beauté, les petits-enfants l'innocence. Oh, voilà que l'humanité tout entière est déplorable ou ridicule. Soumis comme les nains à la nécessité de travailler pour vivre, les hommes se sont révoltés contre cette loi divine et, loin d'être comme nous des ouvriers pleins d'allégresse, ils préfèrent la guerre au travail. Ils aiment mieux s'entretuer que s'entraider. Mais il faut reconnaître, pour être juste, que la brièveté de leur vie est la cause principale de leur ignorance et de leur férocité. Ils vivent trop peu de temps pour apprendre à vivre. La race des nains qui vivent sous la terre est plus heureuse et meilleure. Si nous ne sommes point immortels, du moins chacun de nous durera aussi longtemps que la terre qui nous porte dans son sein et nous pénètre de sa chaleur intime et féconde, tandis qu'elle n'a pour les races qui naissent sur la rude écorce qu'une haleine, tantôt brûlante, tantôt glacée, soufflant la mort en même temps que la vie. Les hommes, toutefois, doivent à l'excès de leur misère et de leur méchanceté une vertu qui rend l'âme de quelques-uns d'entre eux plus belle que l'âme des nains. Cette vertu, dont la splendeur est pour la pensée ce qu'est pour l'œil le doux éclat des perles, ô roi Loc, c'est la pitié. La souffrance l'enseigne et les nains la connaissent mal, parce que, plus sages que les hommes, ils ont moins de peine. Aussi les nains sortent-ils parfois de leurs grottes profondes et vont-ils sur l'écorce inclémente de la mer se mêler aux hommes afin de les aimer, de souffrir avec eux et par eux et de goûter ainsi la pitié qui rafraîchit les âmes comme une céleste rosée. Telle est la vérité sur les hommes, ô roi Loc. Mais tu pourrais demander la destinée particulière de quelqu'un d'entre eux. Le roi Loc ayant répété sa question, le vieux Nur regarda dans une des lunettes qui emplissait la chambre. Car les nains n'ont point de livres, mais ce qu'on trouve chez eux viennent de hommes et servent de jouets. Pour s'instruire, ils ne consultent pas comme nous des signes sur le papier. Ils regardent dans des lunettes et y voient l'objet même de leur curiosité. La difficulté est seulement de choisir la lunette convenable et de la bien diriger. Il en est de cristal, il en est de topaz et d'opale, mais celles dont la lentille est un gros diamant poli ont plus de puissance et servent à voir des choses très éloignées. Les nains aussi ont des lentilles d'une substance diaphane inconnue aux hommes. Celles-là permettent au regard de traverser comme du verre les murailles et les rochers. D'autres, plus admirables encore, reproduisent aussi fidèlement qu'un miroir tout ce que le temps emporta dans sa fuite, car les nains savent rappeler du sein infini de l'éther jusque dans leurs cavernes la lumière des anciens jours avec les formes et les couleurs des temps révolus. Ils se donnent au spectacle du passé en ressaisissant les gerbes lumineuses qui, s'étant un jour brisées contre des formes d'hommes, d'animaux, de plantes ou de rochers, rejaillissent à travers les siècles dans l'insondable éther. Le vieux Nur excellait à découvrir les figures de l'Antiquité et celles même impossibles à concevoir qui vécurent avant que la terre eût revêtu l'aspect que nous lui connaissons. Aussi ne fût-ce qu'un amusement pour lui de trouver Georges de Blanchelande. L'ayant regardé pendant moins d'une minute dans une lunette tout à fait simple, il dit au roi Locke: « Roi Locke, oh, celui que tu cherches est chez les ondines, dans le manoir de cristal d'où l'on ne revient pas et dont les murs irisés confinent à ton royaume. » « Il y est ! Qu'il y reste ! » s'écria le roi Locke en se frottant les mains. « Je lui souhaite bien du plaisir !» Ayant embrassé le vieux Nur, il sortit du puits en éclatant de rire. Tout le long de son chemin, il se tint le ventre pour rire à son aise. Son chef en branlait. Sa barbe allait et venait sur son estomac. Les petits hommes qui le rencontraient se mettaient à rire comme lui par sympathie. En les voyant rire, les autres riaient aussi. Et ce rire gagna de proche en proche, en sorte que tout l'intérieur de la terre fut secoué par un hoquet extrêmement jovial. Chapitre 17, où l'on raconte la merveilleuse aventure de Georges de Blanchelande. Le roi Locke ne rit pas longtemps. Au contraire, il cacha sous les couvertures de son lit le visage d'un petit homme tout à fait malheureux. Songeant à Georges de Blanchelande, captif des ondines, il ne put dormir de la nuit. Aussi, dès l'heure où les nains qui ont une servante de ferme pour amie vont traire les vaches à sa place tandis qu'elle dort, les poings fermés dans son lit blanc, le petit roi Locke alla retrouver le savant Nur dans son petit puits profond. « Nur, lui dit-il, tu m'as pas dit ce qu'il faisait chez les ondines. » Le vieux Nur crut que le roi Locke avait perdu la raison, et il n'en fut pas beaucoup effrayé, parce qu'il était certain que le roi Locke, s'il devenait fou, ne manquerait pas de faire un fou gracieux, spirituel, aimable et bienveillant. La folie des nains est douce comme leur raison et pleine d'une fantaisie délicieuse. Mais le roi Locke n'était pas fou. Du moins, il ne l'était pas plus que ne le sont d'ordinaire les amoureux. « Je veux parler de Georges de Blanchelande, dit-il au vieillard, qui avait oublié ce jeune homme aussi parfaitement que possible. » Alors le savant Nur disposa dans un ordre exact, mais si compliqué qu'il avait l'apparence du désordre, des lentilles et des miroirs, et fit voir dans une glace au roi Locke la propre figure de Georges de Blanchelande, telle qu'il était quand les ondines le ravirent. Par un bon choix et une habile direction des appareils, le nain montra à l'amoureux roi les images de toute l'aventure du fils de cette comtesse qu'une rose blanche avertit de sa fin. Et voici exprimé par des paroles ce que les deux petits hommes virent dans la réalité des formes et des couleurs. Quand Georges fut emporté dans les bras glacés des filles du lac, il sentit l'eau lui presser les yeux et la poitrine et il crut mourir. Pourtant, il entendait des chansons semblables à des caresses et il était pénétré d'une fraîcheur délicieuse. Quand il rouvrit les yeux, il se vit dans une grotte dont les piliers de cristal reflétaient les nuances délicates de l'arc-en-ciel. Au fond de cette grotte, une grande coquille de nacre, irisée des teintes les plus douces, servait de dais au trône de corail et d'algues de la reine des ondines. Mais le visage de la souveraine des eaux avait des lueurs plus tendres que la nacre et le cristal. Elle sourit à l'enfant que les femmes lui amenaient et reposa longtemps sur lui ses yeux verts. « Ami, lui dit-elle enfin, sois le bienvenu dans notre monde où toute peine te sera épargnée. Pour toi, ni lectures arides ni rudes exercices, rien de grossier qui rappelle la terre et ses travaux, mais seulement les chansons, les danses et l'amitié des ondines. En effet, les femmes aux cheveux verts enseignèrent à l'enfant la musique, la valse et mille amusements. Elles se plaisaient à nouer sur son front les pétoncles dont s'étoilaient leurs chevelures. Mais lui, songeant à sa patrie, se mordait les poings dans son impatience. Les années se passaient, et Georges souhaitait avec une constante ardeur de revoir la terre, la rude terre que le soleil brûle, que la neige durcit, la terre natale où l'on souffre, où l'on aime, la terre où il avait vu, où il voulait revoir Abeille. Cependant, il devenait un grand garçon, et un fin duvet lui dorait la lèvre. Le courage lui venant avec la barbe, il se présenta un jour devant la reine des ondines, et s'étant incliné, il lui dit « Madame, je viens, si vous daignez le permettre, prendre congé de vous. Je retourne aux Clarides. » « Belle amie, répondit la reine en souriant, je ne puis vous accorder le congé que vous me demandez, car je vous garde dans mon manoir de cristal pour faire de vous mon amie. » Madame, reprit Georges, je me sens indigne d'un si grand honneur. C'est l'effet de votre courtoisie. Tout bon chevalier ne croit jamais avoir assez gagné l'amour de sa dame. D'ailleurs, vous êtes bien jeune pour connaître encore tout vos mérites. Sachez, belle amie, qu'on ne vous veut que du bien. Obéissez seulement à votre dame. Mais, madame, j'aime Abeille des Clarides et je ne veux d'autre dame qu'elle. La reine, très pâle mais plus belle encore, s'écria « Une fille mortelle, une grossière fille des hommes, cette Abeille, mais comment pouvez-vous aimer cela ?»« Je ne sais, mais je sais que je l'aime. »« Oh, c'est bon, cela vous passera. » Et elle retint le jeune homme dans les délices du manoir de cristal. Il ne savait pas ce que c'est qu'une femme, et il ressemblait plus à Achille parmi les filles de Lycomède qu'à Tannhäuser dans le bourg enchanté. C'est pourquoi il errait tristement le long des murs de l'immense palais, cherchant une issue pour fuir. Mais il voyait de toutes parts l'empire magnifique et muet des ondes fermer sa prison lumineuse. À travers les murs transparents, il regardait s'épanouir les anémones de mer et le corail fleurir, tandis qu'au-dessus des madrépores délicats et des étincelants coquillages, les poissons de pourpre, d'azur et d'or faisaient d'un coup de queue jaillir des étincelles. Ces merveilles ne le touchaient guère. Mais, bercé par les chants délicieux des ondines, il sentait peu à peu sa volonté se rompre et toute son âme se détendre. Il n'était plus que mollesse et qu'indifférence quand il trouva par hasard, dans une galerie du palais, un vieux livre tout usé dans sa reliure de peau de truie à grands coups de cuivre. Ce livre, recueilli d'un naufrage au milieu des mers, traitait de la chevalerie et des dames, et l'on y trouvait compté tout au long les aventures des héros qui allèrent par le monde combattant les géants, redressant les torts, protégeant les veuves et recueillant les orphelins pour l'amour de la justice et l'honneur de la beauté. Georges rougissait et pâlissait tour à tour d'admiration, de honte et de colère, au récit de ses belles aventures. Il n'y put tenir. « Moi aussi, s'écria-t-il, je serai un bon chevalier, mais moi aussi j'irai par le monde, punissant les méchants et secourant les malheureux pour le bien des hommes, et au nom de ma dame abeille. » Alors, le cœur gonflé d'audace, il s'élança, l'épée nue, à travers les demeures de cristal. Les femmes blanches fuyaient et s'évanouissaient devant lui comme les lames argentées d'un lac. Seule leur reine le vit venir sans trouble. Elle attacha sur lui le regard froid de ses prunelles vertes. Il court à elle et il lui crie « Rends le charme qui m'enveloppe, ouvre-moi le chemin de la terre. Je veux combattre au soleil comme un chevalier. Je veux retourner où l'on aime, où l'on souffre, où l'on lutte. Rends-moi la vraie vie et la vraie lumière, rends-moi la vertu. « Sinon je te tue, méchante femme !» Elle secoua, pour dire non, la tête en souriant. Elle était belle et tranquille. Georges la frappa de toutes ses forces, mais son épée se brisa contre la poitrine étincelante de la reine des Ondines. « Enfant, dit-elle !» Et elle le fit enfermer dans un cachot, qui formait au-dessous du manoir une sorte d'entonnoir de cristal autour duquel les requins rôdaient en ouvrant leurs monstrueuses mâchoires armées d'une triple rangée de dents aiguës. Et il semblait qu'à chaque effort, il devait briser la mince paroi de verre en sorte qu'il n'était pas possible de dormir dans cet étrange cachot. La pointe de cet entonnoir sous-marin reposait sur un fond rocheux qui servait de voûte à la caverne la plus lointaine et la moins explorée de l'Empire des Nains. Voilà ce que les deux petits hommes virent en une heure, aussi exactement que s'ils avaient suivi Georges tous les jours de sa vie. Le vieux Nur, après avoir déployé la scène du cachot dans toute sa tristesse, parla au roi Locke à peu près comme parlent les Savoyards quand ils ont montré la lanterne magique aux petits-enfants. « Roi Locke, lui dit-il, je t'ai montré tout ce que tu voulais voir, et ta connaissance étant parfaite, je n'y puis rien ajouter. Ne m'inquiète pas de savoir ce que tu as vu, ça fait plaisir, il me suffit que ce soit la vérité. La science ne se soucie ni de plaire ni de déplaire, elle est inhumaine. » Ce n'est point elle, c'est la poésie qui charme et qui console. C'est pourquoi la poésie est plus nécessaire que la science. Roi Locke, va te faire chanter une chanson. » Le roi Locke sortit du puits sans prononcer une parole.